Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Γαλλική γλώσσα.
Επίπεδο Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Activité 1. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Les syndicats étudiants réclament une revalorisation des aides de l'État. Le ministre Jean-Michel Blanquer a évoqué ce matin des progrès à venir. Combien d'étudiants sont actuellement concernés par toutes ces aides ?
Eh bien, en ce qui concerne les bourses sur critères sociaux, elles sont versées à 4 étudiants sur 10 à l'université. Elles sont destinées à ceux qui rencontrent des difficultés matérielles dans leurs études, montant maximal de ces aides 554,50 € par mois. À cela s'ajoutent des aides au mérite pour les boursiers ayant obtenu une mention très bien au bac, par exemple, et les aides pour l'hébergement, comme les APL.
Quelle est la situation de la France par rapport aux autres pays européens ?
Eh bien, selon une étude de 2016, en moyenne en Europe, 41% des étudiants touchent des aides publiques. La France, vous le voyez, est bien au-dessus, 68%, mais loin des Pays-Bas et du Danemark, qui font encore mieux, 79% et 91% respectivement des étudiants concernés par des subventions, car dans ces pays, eh bien, les bourses sont universelles, sans condition de ressources.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Les syndicats étudiants réclament une revalorisation des aides de l'État. Le ministre Jean-Michel Blanquer a évoqué ce matin des progrès à venir. Combien d'étudiants sont actuellement concernés par toutes ces aides ?
Eh bien, en ce qui concerne les bourses sur critères sociaux, elles sont versées à 4 étudiants sur 10 à l'université. Elles sont destinées à ceux qui rencontrent des difficultés matérielles dans leurs études, montant maximal de ces aides 554,50 € par mois. À cela s'ajoutent des aides au mérite pour les boursiers ayant obtenu une mention très bien au bac, par exemple, et les aides pour l'hébergement, comme les APL.
Quelle est la situation de la France par rapport aux autres pays européens ?
Eh bien, selon une étude de 2016, en moyenne en Europe, 41% des étudiants touchent des aides publiques. La France, vous le voyez, est bien au-dessus, 68%, mais loin des Pays-Bas et du Danemark, qui font encore mieux, 79% et 91% respectivement des étudiants concernés par des subventions, car dans ces pays, eh bien, les bourses sont universelles, sans condition de ressources.
Activité 2. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Oui, le coworking est au cœur du futur travail en mode hybride qui se dessine. Quelques jours de télétravail, un peu de travail au siège et un soupçon de travail dans un espace de coworking. Deux actualités viennent confirmer que les espaces de coworking sont désormais inscrits dans notre paysage.
Oui, la première, c'est l'ouverture d'un très grand espace à Paris.
Très grand et surtout très prestigieux puisqu'il est situé dans l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Il a ouvert il y a quelques jours 600 postes de travail, certains avec vue sur l'obélisque et d'autres sur le jardin des Tuileries. La deuxième actualité du coworking, c'est l'appel de 30 personnalités passées dans le journal du dimanche pour la création d'un chèque bureau financé par les entreprises qui permettrait aux salariés de s'offrir du temps dans un espace de travail partagé pour sortir de l'isolement du télétravail et offrir une solution alternative au retour au bureau.
Et on le disait, Philippe, ces espaces de coworking ouvrent donc désormais un petit peu partout.
Oui, avec notamment une tendance, c'est de se rapprocher des lieux de résidence des salariés et donc d'ouvrir des espaces en banlieue parisienne. L'idée, c'est de sortir des centres-villes et de mailler les territoires. Autre phénomène, à l'heure où de plus en plus de salariés, vous le savez, quittent la capitale, eh bien, des grandes entreprises louent pour eux des postes de travail dans des espaces de coworking en région pour leur offrir un espace professionnel.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Oui, le coworking est au cœur du futur travail en mode hybride qui se dessine. Quelques jours de télétravail, un peu de travail au siège et un soupçon de travail dans un espace de coworking. Deux actualités viennent confirmer que les espaces de coworking sont désormais inscrits dans notre paysage.
Oui, la première, c'est l'ouverture d'un très grand espace à Paris.
Très grand et surtout très prestigieux puisqu'il est situé dans l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. Il a ouvert il y a quelques jours 600 postes de travail, certains avec vue sur l'obélisque et d'autres sur le jardin des Tuileries. La deuxième actualité du coworking, c'est l'appel de 30 personnalités passées dans le journal du dimanche pour la création d'un chèque bureau financé par les entreprises qui permettrait aux salariés de s'offrir du temps dans un espace de travail partagé pour sortir de l'isolement du télétravail et offrir une solution alternative au retour au bureau.
Et on le disait, Philippe, ces espaces de coworking ouvrent donc désormais un petit peu partout.
Oui, avec notamment une tendance, c'est de se rapprocher des lieux de résidence des salariés et donc d'ouvrir des espaces en banlieue parisienne. L'idée, c'est de sortir des centres-villes et de mailler les territoires. Autre phénomène, à l'heure où de plus en plus de salariés, vous le savez, quittent la capitale, eh bien, des grandes entreprises louent pour eux des postes de travail dans des espaces de coworking en région pour leur offrir un espace professionnel.
Activité 3. Lisez la consigne. Item 7A. Écoutez.
Avec les confinements successifs, les livraisons de repas ont explosé et avec elles les déchets liés aux emballages. Une start-up à Caen a eu l'idée de proposer aux restaurants des plats en verre consignés.
Item 8A. Écoutez.
Des vitrines fermées, des boutiques sans clients pendant de longs mois. Et pourtant, le luxe s'est déjà refait une santé. Au premier trimestre de cette année, les géants du luxe font mieux qu'à la même période d'avant la crise.
Item 9A. Écoutez.
Recrute-t-on les femmes de la même façon que l'on recrute les hommes ? Eh bien non, nous dit ce matin une étonnante étude de la DARES, le service statistique du ministère du Travail.
Item 10A. Écoutez.
On commence avec un implant pour permettre à des tétraplégiques de remarcher. Ce n'est plus de la science-fiction. Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses. Item 7A. Écoutez.
Avec les confinements successifs, les livraisons de repas ont explosé et avec elles les déchets liés aux emballages. Une start-up à Caen a eu l'idée de proposer aux restaurants des plats en verre consignés.
Item 8A. Écoutez.
Des vitrines fermées, des boutiques sans clients pendant de longs mois. Et pourtant, le luxe s'est déjà refait une santé. Au premier trimestre de cette année, les géants du luxe font mieux qu'à la même période d'avant la crise.
Item 9A. Écoutez.
Recrute-t-on les femmes de la même façon que l'on recrute les hommes ? Eh bien non, nous dit ce matin une étonnante étude de la DARES, le service statistique du ministère du Travail.
Item 10A. Écoutez.
On commence avec un implant pour permettre à des tétraplégiques de remarcher. Ce n'est plus de la science-fiction.
Activité 4. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
À mi-chemin entre le vélo et la voiture, voici le véhicule du futur. Imaginé par une start-up charentaise, la Midipile, c'est son nom, arrive à point nommé pour répondre aux attentes écologiques du public.
Donc voilà notre proposition de voiture du futur. C'est des grandes roues, 24 pouces, c'est le monde du vélo. On y aperçoit des pédales, deux sièges et puis tout un tas de, une canopée de panneaux photovoltaïques qui vont vous permettre sur le parking de recharger toute la journée.
Une voiture à pédales, un peu comme les caisses à savon de notre enfance, entièrement fabriquée en matériaux recyclables. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype, mais on s'y voit déjà.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
À mi-chemin entre le vélo et la voiture, voici le véhicule du futur. Imaginé par une start-up charentaise, la Midipile, c'est son nom, arrive à point nommé pour répondre aux attentes écologiques du public.
Donc voilà notre proposition de voiture du futur. C'est des grandes roues, 24 pouces, c'est le monde du vélo. On y aperçoit des pédales, deux sièges et puis tout un tas de, une canopée de panneaux photovoltaïques qui vont vous permettre sur le parking de recharger toute la journée.
Une voiture à pédales, un peu comme les caisses à savon de notre enfance, entièrement fabriquée en matériaux recyclables. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un prototype, mais on s'y voit déjà.
Activité 5. Lisez la consigne.
Lisez les hypothèses. Écoutez.
Même l'UNESCO le reconnaît, le repas à la française est vraiment une exception. Il vient d'être classé au patrimoine immatériel de l'humanité pour la fraîcheur et la qualité des produits, mais aussi pour l'esprit créatif de nos chefs et pour la présentation des mets. Les touristes du monde entier sont unanimes en France, on se régale.
La cuisine française, c'est d'abord une expertise professionnelle, parfaitement claire. Alors, professionnelle, ça veut dire qu'il y a de la rigueur, de la discipline, de l'exigence dans l'apprêt des produits, la sélection rigoureuse, leur découpage, leur assaisonnement, leur cuisson, l'accompagnement, la sauce qui va avec. Tout ça est extrêmement codifié. Mais tout ça, c'est comme la musique et le solfège. Donc il faut apprendre les bases pour avoir comme des bonnes racines pour bien grandir. Mais ça ne veut pas dire que quand on connaît la cuisine, les bases de la cuisine française, on sait faire la cuisine française. La base culinaire, j'ai pas dit le goût n'est pas français, mais la base est française. Et je pense qu'au-delà du goût français, ce qui est le plus important, c'est le professionnalisme.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Même l'UNESCO le reconnaît, le repas à la française est vraiment une exception. Il vient d'être classé au patrimoine immatériel de l'humanité pour la fraîcheur et la qualité des produits, mais aussi pour l'esprit créatif de nos chefs et pour la présentation des mets. Les touristes du monde entier sont unanimes en France, on se régale.
La cuisine française, c'est d'abord une expertise professionnelle, parfaitement claire. Alors, professionnelle, ça veut dire qu'il y a de la rigueur, de la discipline, de l'exigence dans l'apprêt des produits, la sélection rigoureuse, leur découpage, leur assaisonnement, leur cuisson, l'accompagnement, la sauce qui va avec. Tout ça est extrêmement codifié. Mais tout ça, c'est comme la musique et le solfège. Donc il faut apprendre les bases pour avoir comme des bonnes racines pour bien grandir. Mais ça ne veut pas dire que quand on connaît la cuisine, les bases de la cuisine française, on sait faire la cuisine française. La base culinaire, j'ai pas dit le goût n'est pas français, mais la base est française. Et je pense qu'au-delà du goût français, ce qui est le plus important, c'est le professionnalisme.
Activité 6. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Ces feux de l'été en Méditerranée qui détruisent des forêts et les habitats d'une partie de la faune sauvage, le Fonds mondial pour la nature est inquiet.
Oui, car certaines espèces vivant dans ces zones incendiées se trouvaient déjà en situation de sursis. C'est le cas par exemple du lynx du désert, de certains hiboux en Turquie, de l'ours brun ou du wapiti en Russie. Dans le sud de la Grèce, dans l'Attique, c'est le cerf élaphe, le plus grand cerf d'Europe, qui se trouve en danger critique d'extinction. Et si l'on y ajoute certaines perdrix, lièvres, écureuils, faucons, marmottes et de nombreux reptiles, il existe plus d'une centaine d'espèces animales menacées qui vivent dans le périmètre de ces incendies.
Et ces animaux n'ont pas de stratégie naturelle de survie face aux incendies.
Alors parfois les mammifères peuvent fuir et les reptiles ou les insectes peuvent s'enfouir dans la terre.
Malheureusement, les responsables de la réserve naturelle de la Plaine des Morts dans le Var ont constaté que certaines tortues d'Hermann, par exemple, n'ont pas réussi à s'enterrer face aux flammes. Elles n'ont pas non plus réussi à trouver la protection d'une rivière car les cours d'eau sont à sec. C'est une grande inquiétude écologique car les tortues d'Hermann font partie des dernières tortues terrestres d'Europe.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Ces feux de l'été en Méditerranée qui détruisent des forêts et les habitats d'une partie de la faune sauvage, le Fonds mondial pour la nature est inquiet.
Oui, car certaines espèces vivant dans ces zones incendiées se trouvaient déjà en situation de sursis. C'est le cas par exemple du lynx du désert, de certains hiboux en Turquie, de l'ours brun ou du wapiti en Russie. Dans le sud de la Grèce, dans l'Attique, c'est le cerf élaphe, le plus grand cerf d'Europe, qui se trouve en danger critique d'extinction. Et si l'on y ajoute certaines perdrix, lièvres, écureuils, faucons, marmottes et de nombreux reptiles, il existe plus d'une centaine d'espèces animales menacées qui vivent dans le périmètre de ces incendies.
Et ces animaux n'ont pas de stratégie naturelle de survie face aux incendies.
Alors parfois les mammifères peuvent fuir et les reptiles ou les insectes peuvent s'enfouir dans la terre. Malheureusement, les responsables de la réserve naturelle de la Plaine des Morts dans le Var ont constaté que certaines tortues d'Hermann, par exemple, n'ont pas réussi à s'enterrer face aux flammes. Elles n'ont pas non plus réussi à trouver la protection d'une rivière car les cours d'eau sont à sec. C'est une grande inquiétude écologique car les tortues d'Hermann font partie des dernières tortues terrestres d'Europe.
Activité 7. Vous allez écouter les items une seule fois. Lisez la consigne. Item 1B. Écoutez.
Donner plus d'autonomie aux établissements scolaires, c'est ce qu'expérimente Jean-Michel Blanquer et son ministère depuis la rentrée dans trois académies, Aix-Marseille, Lille et Nantes.
Item 2B. Écoutez.
Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer qui touche 900 000 personnes en France. Et alors qu'il n'existe quasiment aucun traitement pour ralentir son évolution, la recherche met aussi l'accent sur la prévention.
Item 3B. Écoutez.
C'est seulement en 1959 qu'il réalise son premier long métrage, À bout de souffle. Avec ce film, il sort déjà des conventions en coupant dans chaque scène au lieu d'enlever des séquences entières, ce qui donne à la narration un style assez nerveux.
Item 4B. Écoutez.
On va vous reparler de ce Goncourt 2021 attribué donc à l'écrivain Mohamed M. Boukarsar et on s'en réjouit, ainsi que du prix Renaudot qui a été lui décerné à Amélie Nothomb, plus de 30 romans déjà à son actif.
Item 5B. Écoutez.
Imaginez plutôt l'un des tournois de golf les plus mythiques du monde, le British Open, un tournoi qu'aucun Français n'a gagné depuis 1907, et un Français justement, Jean Van de Velde, sorti des qualifications qui joue à la perfection au point d'être en tête au début du quatrième jour.
Activité 8. Vous allez écouter le texte sonore une seule fois. Lisez la consigne. Lisez les 5 items. Écoutez.
Au XIXe siècle, la lettre personnelle, adressée à la famille et aux amis, se diffuse massivement grâce à l'alphabétisation du plus grand nombre et à l'affirmation de la vie privée. Ainsi, en Allemagne, chaque habitant envoie 58 lettres par an en 1900 alors qu'il ne rédigeait seulement qu'une à deux lettres par an en 1840. L'immigration massive sépare des millions de familles qui demeurent en contact grâce aux services postaux. C'est ainsi que tout au long du XIXe siècle, plus de 100 millions de lettres privées sont envoyées des États-Unis vers l'Allemagne. De même, les guerres lointaines favorisent la pratique épistolaire. Pendant la Première Guerre mondiale, les civils et les soldats allemands échangent environ 30 milliards de lettres pendant le conflit. Les soldats comme les immigrés écrivent bien souvent leur correspondance de manière collaborative. La pratique épistolaire n'est donc pas forcément un plaisir solitaire.
Τέλος της εξέτασης. Καλή επιτυχία!